Laudetur Jesus Christus.
Nouvel épisode des tensions diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. La junte militaire à Ouagadougou décide d'expulser 3 diplomates français pour activités subversives. Nous retrouverons notre correspondant régional. L'Iran sous les radars des pays occidentaux. Le G7 prépare une réaction aux frappes iraniennes contre Israël le week-end dernier. L'État hébreu est dans le même temps invité à la mesure dans sa riposte. À la une de ce journal également, l'économie turque marquée par une inflation galopante à la recherche des investissements américains. Le ministre de l'économie est ces jours-ci aux États-Unis. Et puis nous irons en Croatie au lendemain des élections législatives. Le parti conservateur au pouvoir est arrivé largement en tête, mais les tractations pour former une majorité promettent d'être difficiles. Les explications de notre correspondant à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. De nouvelles tensions diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Ouagadougou a en effet décidé ce matin d'expulser 3 diplomates français, parmi lesquels 2 conseillers politiques à l'ambassade de France. Ces personnes sont déclarées persona non grata. Les fonctionnaires sont accusés d'activités subversives et doivent quitter le pays sous 48 heures. Les précisions de notre correspondant dans la région, Abdoul Razak Idriss.
C'est dans une note adressée à l'ambassade de France à Ouagadougou que les autorités militaires de transition du Burkina Faso ont ordonné l'expulsion de ces 3 diplomates. Parmi eux, 2 conseillers politiques, ils sont accusés d'activités subversives sans précision. Un délai de 48 heures leur a été donné pour quitter le territoire burkinabé. Paris, qui n'a plus d'ambassadeur au Burkina Faso depuis plusieurs mois, n'a pas encore réagi. C'est la deuxième expulsion de ressortissants français du Burkina Faso en moins de 2 ans. Les relations entre les 2 pays se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci a dénoncé un accord militaire datant de 1961 et obtenu le départ des forces françaises présentes au Burkina Faso pour mieux lutter contre le djihadisme qui l'endeuille depuis plusieurs années. Avec plus de 20 000 morts et environ 2 millions de déplacés, le Burkina Faso s'est rapproché de ses 2 voisins confrontés au même défi, le Mali et le Niger, mais aussi de la Russie. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
La chaleur meurtrière qui a frappé les pays du Sahel au début du mois d'avril est bien d'origine humaine. C'est ce que rappelle ce jeudi le WWA, le World Weather Attribution, un réseau international de scientifiques qui publie régulièrement des études sur le climat. Avec des températures au-delà des 45 degrés, le Mali et le Burkina Faso ont été particulièrement touchés. Le Sahel, où la sécheresse s'est accrue ces dernières années, reste une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Plusieurs centaines de migrants syriens refoulés de Chypre et renvoyés au Liban. Ils ont été interpellés dans les eaux territoriales chypriotes en début de semaine par la police et les gardes-côtes. Le 15 avril, Nicosie avait décidé de suspendre toute étude de demande d'asile des Syriens face à l'afflux de réfugiés. Une décision difficile à prendre, mais pour protéger les intérêts de Chypre, expliquait le président de l'île. Le Hezbollah a annoncé ce matin la mort de 2 de ses combattants tués dans les frappes israéliennes. Hier, c'est Tzahal qui faisait état de 14 soldats blessés, dont 6 grièvement dans le nord d'Israël, dans une attaque depuis le territoire libanais. Le conflit entre la milice chiite, armée financée par l'Iran et l'État hébreu, a redoublé d'intensité depuis le 7 octobre et le déclenchement de la guerre avec le Hamas, dont le Hezbollah est un allié. Les pays de l'Union européenne, eux, ont promis de nouvelles sanctions contre l'Iran lors d'un sommet organisé hier à Bruxelles. Sanctions qui visent les secteurs de production de drones et de missiles. Les chancelleries européennes qui, dans le même temps, appellent le gouvernement israélien à la retenue dans ses velléités de riposte contre Téhéran. Des appels portés hier à Jérusalem par les chefs de la diplomatie allemande et britannique. Les précisions de notre correspondante en Israël, Ariane Ménage.
Depuis l'attaque iranienne, ils sont les premiers chefs de diplomatie étrangers à faire le déplacement en Israël. Un geste de solidarité et surtout une tentative de faire pression sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement. À Jérusalem, David Cameron et Annalena Baerbock ont multiplié les appels à la retenue, d'abord lors d'une réunion avec le président israélien, puis avec le ministre des Affaires étrangères. Leurs appels n'empêcheront pas une riposte israélienne contre Téhéran. Il est clair que les Israéliens ont décidé d'agir, affirme David Cameron. Mais Berlin et Londres espèrent faire pression pour limiter l'ampleur des représailles, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, ajoute le chef de la diplomatie britannique. Depuis l'attaque inédite de l'Iran le 13 avril dernier, Benjamin Netanyahou a réuni quasi quotidiennement son cabinet de guerre. Mais jusqu'ici, Israël est resté silencieux sur la nature de sa riposte envisagée. Pour le Premier ministre israélien, aux pressions internationales s'ajoutent celles de l'opinion publique et des partenaires de sa coalition, eux-mêmes divisés sur la stratégie à adopter. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
L'ONUL a lancé hier un appel aux dons de près de 3 milliards d'euros pour venir en aide aux civils gazaouis, malgré quelques améliorations dans la livraison d'aide humanitaire via le port israélien d'Ashdod notamment. La situation reste préoccupante. Et puis sur un plan diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York doit se prononcer sur la demande des Palestiniens de devenir un État membre à part entière des Nations Unies. Une demande poussée notamment par les diplomaties arabes. Le vote pourrait avoir lieu ce jeudi ou demain vendredi, mais pourrait se heurter au veto des États-Unis. Le ministre turc des Finances, Mehmet Şimşek, l'homme chargé par le président Erdogan de sortir la Turquie de sa crise inflationniste, est aux États-Unis ces jours-ci pour des réunions de haut niveau avec plusieurs investisseurs et des institutions financières internationales. L'objectif, faire revenir les investisseurs étrangers qui ont fui le pays, une condition indispensable au redressement économique turc. La hausse des prix qui atteint des niveaux records est considérée comme la principale raison de l'échec du président Erdogan aux élections municipales du 31 mars dernier. À Istanbul, Anandlower.
Après sa défaite aux municipales, Tayyip Erdogan n'a plus le choix. S'il veut redresser la barre politiquement, le président turc va devoir redresser l'économie et réduire l'inflation qui dépassait encore en mars les 68% sur un an. Symbole de la période d'austérité dans laquelle entre la Turquie, le gouvernement annonçait qu'il n'y aurait pas de nouvelle hausse du salaire minimum cette année. Tayyip Erdogan peut-il rétablir la prospérité qui avait fait ses succès électoraux dans les années 2000? Même en appliquant les politiques adéquates, l'économiste Ahmet İnsel en doute.
À la différence des années 2000, aujourd'hui, la croissance économique en Turquie est aussi grippée par la conjoncture internationale. Alors que dans les années 2000, l'AKP a bénéficié d'une conjoncture internationale très très favorable. Abondance de liquidités, croissance partout, faible inflation partout, etc. Donc du coup, aujourd'hui, il n'a pas le même contexte international pour en profiter. Donc c'est plus difficile.
Le spécialiste cite aussi l'image très dégradée de la Turquie et de sa gouvernance comme un frein au redressement, notamment au retour des investisseurs étrangers. Enfin, la défaite électorale pourrait aussi être un obstacle. Privé des ressources municipales pour alimenter ses réseaux clientélistes, le pouvoir pourrait puiser dans les moyens de l'État pour compenser le manque. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Il y a urgence à financer de l'aide pour l'Ukraine. C'est le rappel fait par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est entretenu avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Une rencontre faite sur l'île italienne de Capri où les chefs de la diplomatie du G7 sont réunis à l'initiative de l'Italie. Le Congrès américain qui doit à nouveau se prononcer d'ici la fin de la semaine sur une enveloppe budgétaire de Kiev pour Kiev de 61 milliards d'euros, mais qui se heurte jusqu'ici à l'opposition des Républicains. C'est une participation record à laquelle on a assisté en Croatie hier pour les élections législatives. Le parti conservateur au pouvoir est arrivé largement en tête, mais les tractations pour former une majorité promettent d'être compliquées. L'éclairage de notre correspondant à Zagreb, Simon Rico.
Pour une fois, les sondages ne s'étaient pas trompés. L'Union démocratique croate du Premier ministre Andrei Plenković est largement en tête avec plus de 34% des voix, distançant de près de 10 points la coalition des sociaux-démocrates emmenée de facto par le président Zoran Milanović. Alors que la campagne, courte et dure, a été dominée par leur duel, la balle est désormais dans le camp des petits partis. Tous les regards se portent notamment sur les deux formations nationalistes qui arrivent juste derrière et font une entrée en force au Parlement. Au vrai, aucune majorité ne semble toutefois se dégager, alors que l'opposition a tapé très dur sur la corruption du camp conservateur durant la campagne. Le parti du Premier ministre apparaît donc très isolé, mais le gouvernement de salut national, dont rêve tout haut le président, a aussi du plomb dans l'aile. Il n'y a pas eu de dynamique en sa faveur, et le mouvement de la gauche écologiste, qui a 10 députés, refuse toute alliance avec l'extrême droite. De fait, beaucoup craignent de nouvelles législatives anticipées, alors que le pays retournera aux urnes le 9 juin pour les européennes, puis en décembre pour la présidentielle. La super année électorale en Croatie promet d'être longue et à rebondissement. Simon Rico, Zagreb. Pour Radio Vatican.
Terminons ce journal au Vatican où le pape a reçu ce matin d'audience les supérieurs et délégués des Carmélites déchaussés. Le Saint-Père les a invités à regarder vers l'avenir et souligner que l'espérance de l'évangile était bien différente des illusions basées sur les calculs humains. Elle signifie s'abandonner à Dieu, a-t-il dit, apprendre à lire les signes qu'il nous donne pour discerner l'avenir. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera bien entendu à 18h heure de Rome. Excellent après-midi.